engagement politique, participation citoyenne, journalisme social, liberté d'expression, décryptage d'articles, réflexion sur l'actualité. Rejoins la Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. La Rédac Pop.
C'est via la page Twitter du collectif antifasciste d'Orléans que nous l'avions appris. Une nouvelle conférence a été organisée par France Souveraineté le 24 septembre dernier dans la ville. Cette association, maintes fois dénoncée par les antifascistes locaux ainsi que par le mouvement social en général, est connue pour l'organisation de réunions sur des sujets chers à l'extrême droite. Le sujet de cette dernière conférence n'y fait pas exception. Après la guerre en Ukraine, vers un nouvel équilibre mondial avec un point d'interrogation. Le sujet peut paraître banal en ce moment, mais l'intervenant Xavier Moreau est loin de faire l'unanimité auprès des spécialistes de la question. Cet ancien officier franco-russe est connu pour sa diffusion de désinformation en faveur de Moscou. Il est aussi le fondateur du site pro-russe StratPol, qu'il présente comme un centre d'analyse politico-stratégique. La conférence ne se tenait pas cette fois-ci à la médiathèque d'Orléans, pourtant très appréciée de l'association France Souveraineté, mais à la salle du Lion de Saint-Marc, un local entretenu et géré par des paroissiens bénévoles. Interrogé par Nos Soins, le diocèse déclare, je cite, « ne pas avoir de lien avec cette association ». Même son de cloche du côté de l'association Le Lion de Saint-Marc, qui affirme de son côté, je cite, « ne pas pouvoir préjuger du contenu d'une conférence ». En 2022, l'association Le Lion de Saint-Marc et le diocèse avaient pourtant annulé d'un commun accord une conférence de l'auteur antisémite Pierre Hillard. Elle était organisée alors dans cette même salle par France Souveraineté déjà. Si nous n'avons pas été invités à cette dernière conférence de Xavier Moreau, nous avons pu néanmoins en visionner le contenu sur la chaîne YouTube de France Souveraineté. Planté devant une estrade flanquée de drapeaux à fleurs de lys, Xavier Moreau a déroulé sa vision de l'Ukraine et de l'offensive russe pendant près d'une heure. Nous avons interrogé Alexandra Goujon, maître de conférence en sciences politiques à l'Université de Bourgogne et enseignante à Sciences Po Paris. Elle mène des recherches sur l'Ukraine depuis le milieu des années 1990.
Ce qu'on appelle aujourd'hui en Ukraine la guerre russo-ukrainienne, hein, qui est donc une guerre entre deux États, la Russie et l'Ukraine, hein, en fait, elle débute en 2014. Elle débute en 2014 parce que, alors il y a deux événements. Le premier, c'est l'annexion de la Crimée en 2014, c'est-à-dire que la Russie, via un référendum qui n'est pas reconnu du point de vue du droit international, en fait, met la main sur une partie du territoire ukrainien. Et deuxièmement, la Russie va soutenir, en fait, un mouvement séparatiste dans l'extrême est de l'Ukraine, hein, qu'on a souvent qualifié de la guerre du Donbass, entre 2014 et 2022. Alors, en 2022, on a en quelque sorte une deuxième étape de la guerre, puisque là, on a ce qu'on appelle donc une invasion à grande échelle. D'abord parce que l'armée russe envahit le territoire à l'est, au nord, au sud, mais aussi parce qu'elle bombarde l'ensemble du territoire ukrainien avec une volonté de récupérer la capitale, qui s'avérera être un échec au bout d'à peu près un mois de bataille. Et donc, c'est important de le rappeler parce que cette bataille de Kiev, comme on l'appelle en Ukraine, elle visait réellement à prendre le pouvoir à Kiev par différents moyens, comme on le sait aujourd'hui, c'est-à-dire, première intention, faire fuir le président, mais si ce n'est pas possible, le kidnapper, voire le tuer. Et donc, s'accaparer le pouvoir central à Kiev. Cette invasion à grande échelle de 2022, elle a pour objectif, pour la Russie, de s'accaparer le territoire ukrainien. Et comme elle n'a pas pu le faire, même si ça reste son objectif, c'est d'essayer d'amoindrir au maximum cet État ukrainien, qu'en quelque sorte aujourd'hui Poutine et d'autres élites politiques et intellectuelles russes ne supportent pas en tant qu'État, c'est-à-dire la question en fait pour les Ukrainiens de déterminer leur propre régime politique, mais aussi de déterminer leur propre politique étrangère, hein, ce qui serait une souveraineté pleine et entière de l'État ukrainien. Et c'est cela que la Russie veut absolument éviter.
Selon le conférencier invité par France Souveraineté, l'Ukraine ne serait pas, je cite, une nation et il n'y aurait, je cite, toujours pas d'Ukraine avant que les bolcheviks ne créent un État à l'intérieur de l'Union soviétique. Xavier Moreau certifie également que les populations d'Ukraine n'auraient rien à voir ensemble et que l'Ukraine aurait dû éclater après la dislocation de l'URSS en 1991. Il répète plusieurs fois au cours de la conférence que, je cite, l'Ukraine est une terre russe, éminemment russe. Il va jusqu'à qualifier la révolution de Maïdan, en février 2014, de coup d'État, alors que c'est un soulèvement populaire contre les oligarques, les violences policières ainsi que la corruption. L'intervenant justifie ainsi l'annexion de la Crimée par la Russie à la suite de la révolution de Maïdan, car, je le cite, « il n'y a plus d'ordre constitutionnel à Kiev ». Interrogée sur ce point, Alexandra Goujon n'est pas étonnée de cette qualification de coup d'État qui est habituelle dans la propagande russe.
La rhétorique russe est celle-ci. On va même plus loin, on parle de coup d'État fasciste. Coup d'État fasciste, c'est l'expression consacrée pour parler de la révolution de Maïdan dans tous les milieux en Russie et les milieux pro-russes, qui vise donc à dévaloriser le changement de pouvoir qui s'est opéré en 2014. Il y a deux types de dévalorisation. La première, c'est de montrer que c'est totalement dominé par l'extrême droite ukrainienne. Donc ça, c'est le premier élément, hein, de faire croire, ça c'est le mot fasciste, c'est-à-dire de faire croire que c'est l'extrême droite qui arrive au pouvoir. Alors, dans la révolution de Maïdan, il y a des groupes d'extrême droite qui vont gagner, si je puis dire, un petit peu en visibilité au fur et à mesure que le régime va devenir de plus en plus répressif à l'égard de la révolution. Hein ? La révolution se transforme en un mouvement insurrectionnel, notamment après les premiers morts, les premiers manifestants morts en janvier 2014. Mais l'extrême droite n'a jamais dominé la révolution. C'est-à-dire que si on... Pour ceux qui ont fait du terrain, ont travaillé sur cette révolution, ce dont on se rend compte, c'est que c'est surtout un mouvement composé d'énormément de groupes sociaux et surtout de citoyens qui, au départ, étaient très faiblement politisés. C'est-à-dire qu'il y a certes des militants politiques, mais en fait le mouvement est dominé par des citoyens qui parfois n'ont même jamais voté et n'appartiennent à aucun mouvement politique. D'ailleurs, il y a une assez grande défiance des citoyens au moment de la révolution à l'égard des élites politiques et notamment de l'opposition. Alors, si on prend l'opposition qui va prendre le pouvoir après la révolution, c'est une opposition qui n'est pas dominée par l'extrême droite. Il y a quelques ministres d'extrême droite qui seront au gouvernement et qui vont d'ailleurs partir au bout de quelques mois. Et les groupes politiques de l'opposition, dans les groupes politiques d'opposition, l'extrême droite est minoritaire. Alors la notion de coup d'État, elle vient illustrer autre chose, c'est le changement de pouvoir. Et effectivement, le changement de pouvoir, il est complexe. Pourquoi ? Et c'est ce qui permet aujourd'hui à la Russie de parler de coup d'État, c'est parce qu'en fait, on a un président qui, suite à la répression qu'il organise et à la centaine de manifestants qui sont tués sur la place de l'indépendance, les 18, 19, 20 février 2014, le président ukrainien de l'époque, Viktor Yanukovych, va fuir le pays. Et pendant une semaine, on ne saura pas où il se trouve. Et c'est dans cet intervalle qu'il y a un changement de pouvoir. Un changement de pouvoir qui s'opère au Parlement. Alors là, tout est transparent. Hein. Le Parlement émet, et donc on peut avoir accès à ce qui s'est passé. Ce qui va se passer, c'est que d'abord, les députés pro-présidentiels vont un peu s'évaporer, hein, parce que le président s'en va, on ne sait pas ce qui va se passer dans le mouvement révolutionnaire. Et puis, c'est l'opposition qui va prendre la main, en fait, au Parlement. Et donc, le président du Parlement va changer et va devenir chef d'État par intérim en attendant l'élection présidentielle qui aura lieu en mai 2014. Et donc il va y avoir un gouvernement aussi de transition qui va être mis en place à ce moment-là, par les députés de l'opposition, avec d'ailleurs un certain nombre de gens de la société civile qui ont agi pendant la révolution, etc. Et tout ça, j'allais dire, va se légaliser au mois de mai, avec l'élection présidentielle, et puis après, en octobre 2014, avec les élections législatives. Mais donc, c'est ce moment, ce changement de pouvoir au Parlement, qui se fait dans des conditions, encore une fois, exceptionnelles, parce que le président est parti, et donc, effectivement, il est parti, il va être déchu de ses fonctions. Et quand il va réapparaître au bout d'une semaine, à une conférence de presse où il est à Rostov, c'est-à-dire en Russie, et où il se présente comme le président légitime, hein, parce qu'il est élu d'ailleurs légitimement en 2010, bien évidemment, il va défendre cette idée qu'il est un président légitime, mais de toute façon, par rapport à ses actions en Ukraine, et notamment la répression qu'il a orchestrée, plus plein d'autres choses, des détournements de fonds, etc., il va être jugé un peu plus tard par contumace pour haute trahison. Et donc c'est ce moment hein, de changement de pouvoir, mais quelque part ce changement de pouvoir à la fois il se fait dans la violence, c'est-à-dire dans la violence de la répression et de la centaine de manifestants tués, mais tués par le régime politique, hein, par le pouvoir en place, et puis il se fait après dans une vacance du pouvoir qui est relativement pacifique, c'est-à-dire qu'à ce moment-là quand le président part, eh bien, les forces de police, elles rejoignent le mouvement révolutionnaire. C'est elles qui vont garder avec les révolutionnaires les bâtiments publics. Hein. Et donc, quelque part, il n'y a pas de, j'allais dire, le Parlement reprend son fonctionnement, certes dans un climat un peu compliqué, mais sans violence au sein des institutions. Et ça, le coup d'État, c'est ce qui va permettre de justifier derrière la notion de coup d'État fasciste, c'est ce qui va permettre de justifier l'intervention militaire russe, puisque dans ce même intervalle, quand Yanukovych est absent, va commencer l'occupation, enfin le changement de pouvoir en Crimée, qui lui est beaucoup moins transparent. Hein. C'est-à-dire que les petits hommes verts qui vont se déployer en Crimée pour prendre le contrôle des institutions politiques. Ça, on ne sait pas du tout ce qui se passe au Parlement de Crimée pendant plusieurs semaines, en fait, avant qu'il y ait le référendum et l'annexion.
De même, l'invasion russe en 2022 serait justifiée, selon Xavier Moreau, parce que, je le cite, Kiev s'apprêtait à lancer l'épuration ethnique du Donbass. L'intervenant répète par ailleurs de nombreuses fois que des menaces pèseraient sur la population russophone d'Ukraine. Cependant, malgré nos recherches, nous n'avons trouvé aucune preuve de ces accusations. La Russie est, elle, au contraire, responsable de crimes de guerre bien documentés.
Sur cette question des russophones, il y a plusieurs choses. C'est-à-dire qu'effectivement, la Russie se présente comme protégeant les russophones d'Ukraine, qu'elle assimile à ses compatriotes, assez souvent. Hein. Elle présente les russophones comme menacés. Mais menacé physiquement, hein. C'est-à-dire qu'on est allé avoir une rhétorique jusqu'à le génocide des russophones. Alors, pour comprendre en fait la question linguistique en Ukraine, il faut quand même remonter à quelques décennies auparavant, c'est-à-dire comprendre qu'en fait, toute la politique pendant la période soviétique a été de russifier le territoire ukrainien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à la fin des années 80, en Ukraine, la menace qui pèse sur une langue en Ukraine, c'est la langue ukrainienne. C'est-à-dire les intellectuels craignent que s'il n'y a pas une politique d'incitation vis-à-vis de la langue ukrainienne, c'est la langue ukrainienne qui va disparaître, et pas la langue russe. Pourquoi ? Parce que la langue russe, avec la politique de russification qui a été menée, elle domine la société ukrainienne, et elle domine surtout l'enseignement. C'est-à-dire que l'enseignement qui pouvait être fait en langue ukrainienne dans les années 20, même parfois dans les années 50-60, eh bien, dans les années 80, c'est la langue russe qui est devenue majoritaire dans les écoles. Ça veut dire qu'on n'apprend plus l'ukrainien à l'école. Donc il y a une politique qui va être mise en place à partir de l'indépendance, d'ukrainisation. Cette politique, en fait, elle a un peu fait peur au début, mais en fait, elle se passe de manière relativement soft. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que l'ukrainien va progressivement prendre de plus en plus de place, mais la russophonie persiste. Et du côté des forces qu'on appelle pro-russes, alors là, encore une fois, à nuancer aussi, parce que c'est... souvent, on considère que les pro-russes, c'est ceux qui veulent être administrés par la Russie, ce qui n'est pas du tout le cas. Hein. On a bien vu que... Alors, ça peut être le cas de certains, hein, de certains maires, etc., dans certaines localités, mais par exemple, le maire de Mariupol pro-russe, à partir de 2022, il se range derrière l'État ukrainien. L'idée d'être pro-russe, c'est plutôt d'avoir des bonnes relations avec la Russie, de pouvoir continuer à commercer, de pouvoir aller en Russie, etc. C'est pas nécessairement être sous contrôle administratif et militaire de la Russie. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile à comprendre, y compris pour les russophones. Aujourd'hui, dans l'armée ukrainienne, vous avez une grande partie des militaires, et ce depuis 2014, qui sont russophones. Donc il n'y a absolument pas d'adéquation entre la russophonie et l'attachement à la Russie. Parce que la russophonie, elle ne dépend pas uniquement des origines, elle dépend de la politique de russification linguistique qui a été menée depuis les années 1950. Donc ça, c'est sur la question de la langue. Et par exemple, dans les années, 2010, même encore aujourd'hui, vous avez une partie de la population, en plus avec les mouvements de population, une partie de la population à Kiev qui parle russe. Bon, cette population est pro-ukrainienne. Donc en fait, voilà. Après, sur la question de la menace, c'est un moment très particulier, puisque dans ce changement de pouvoir dont je vous parlais, fin février, en fait, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, c'est un peu compliqué parce que c'est assez technique, mais pendant qu'Yanukovych est au pouvoir, en 2012, il y a une loi qui va être adoptée pour faire de la langue russe une langue régionale. Cette loi, certains considèrent qu'elle est contraire à la Constitution. C'est la Constitution considère que la seule loi valable sur le territoire ukrainien, la seule langue d'État, c'est l'ukrainien. Et ça, c'est dans la Constitution de 1996, qui a été adoptée en 1996 en Ukraine. Et donc, en fait, quand il va y avoir un changement de pouvoir, les députés de l'opposition vont remettre cette loi de 2012 sur la table et vont demander à l'annuler. Et là, la Russie va utiliser cette annulation de la loi comme étant une menace vis-à-vis des russophones. Mais une menace, si vous voulez, ils associent en gros la violence qui s'est passée sur Maïdan à la menace qu'il peut y avoir à l'égard des russophones. Ce qui est, voilà. Or, les russophones n'ont jamais été menacés. C'est une menace hypothétique. C'est une menace, et l'intervention russe, c'est comme l'invasion aujourd'hui, qui est justifiée en disant, en fait, c'est une défense préventive, parce que si jamais on n'attaque pas l'Ukraine, c'est l'Ukraine qui va nous attaquer. Là, c'est pareil, vous voyez, c'est-à-dire les russophones sont menacés, c'est-à-dire potentiellement. Alors, qui est absolument pas vérifiable, puisqu'en quelque sorte, ils n'ont jamais été menacés. Et d'ailleurs, ça a été un combat très régulier. Et j'ai vu encore des vidéos, il n'y a pas très longtemps, dans certaines localités où il y a des élus qui, lors de commémorations officielles, parlent en russe, hein, notamment dans certaines régions du sud ou de l'est, et où des citoyens viennent, manifestent, pour dire « utilisez la langue de l'État ». La langue de l'État, c'est l'ukrainien. Alors, encore plus aujourd'hui, hein, j'allais dire, bon, là, il y a une transformation, il y a plein de gens qui ont changé déjà à partir de 2014, il y a tout un mouvement d'ukrainisation par le bas, c'est-à-dire de gens qui disent, qui ont changé, de russophones qui ont décidé de parler ukrainien pour montrer leur loyauté à l'égard de l'Ukraine, hein, et qui considèrent que, voilà, aujourd'hui, la langue russe, c'est la langue de l'ennemi. Hein, donc, vraiment, c'est quelque chose qui s'est développé depuis 2014 et encore plus depuis 2022. Mais, encore une fois, ce mouvement d'ukrainisation, certes, il y a des lois qui visent à faire en sorte que l'ukrainien s'installe dans la vie publique, mais il n'entraîne jamais une menace sur les russophones. Et après, il y a toute cette question de l'assimilation entre les russophones et la Russie. C'est-à-dire que dans la propagande russe, il y a cette notion de monde russe. Et la notion de monde russe, elle est volontairement floue. Parce qu'il faut savoir que quand on parle des russophones ou des gens d'origine russe en Ukraine, tous ces gens dont nous parlons, ce sont des citoyens ukrainiens au moment où la Russie intervient. C'est-à-dire lorsque la Russie annexe la Crimée, en Crimée, que ce soit des gens d'origine tatare, d'origine ukrainienne, d'origine russe, et ils sont majoritairement d'origine russe, on pourrait revenir là-dessus, parce qu'il y a eu une russification, la déportation des Tatars en 1944, etc. Mais tous ces gens sont des citoyens ukrainiens. Donc lorsque la Russie les assimile, par exemple, à des compatriotes, ça veut dire qu'elle suppose que les gens d'origine russe ou les gens qui parlent russe font partie de la Russie. Ce qui n'est absolument pas le cas lorsqu'on fait du terrain en Ukraine et où, aujourd'hui, moi je connais des personnes qui continuent de parler russe et qui sont engagées militairement du côté ukrainien. Donc voilà, il y a une espèce d'assimilation, et encore une fois, qui est liée à une très longue domination hein, de la culture russe sur ce qu'on appelle les cultures périphériques, notamment en Ukraine et en Biélorussie.
Du coup, oui, il n'y a pas de menace physique sur les populations russophones. Quoi.
Pas du tout. D'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est que ce serait complètement... Ce serait très compliqué parce que, par exemple, on dit dans le Donbass, alors à l'est, il y a plus de russophones qu'au centre et à l'ouest, certes, mais il y a plus de russophones, notamment dans les milieux urbains, puisque l'ukrainien a longtemps été, c'est une langue aussi, et il y a tout ce mépris hein, par les Russes de la langue ukrainienne, parce que c'est une langue au départ qui est une langue du terroir. Dans les campagnes, dans le Donbass, il y a encore de l'ukrainien. Hein. Pourquoi il y a beaucoup de Russes ? Parce qu'il y a beaucoup de Russes qui ont migré dans le Donbass au moment où le Donbass s'est industrialisé. Donc on a fait venir une population russophone. Et puis après, par l'industrialisation, hein, dans les grands centres urbains, on a imposé la langue russe, en fait. Donc en fait, c'est aussi ça qui crée, la russophonie. Mais dans le centre de l'Ukraine, vous avez comme ça des populations russophones, y compris dans la capitale, hein, des populations russophones et ukrainophones, d'ailleurs, qui se comprennent, discrimination. Mais Yanukovych étant un président qui a été élu en 2010 et qui parle très très mal ukrainien. par exemple.
En fin de présentation, Xavier Moreau a même avancé la thèse complotiste selon laquelle l'avion de la compagnie Malaysia Airlines du 17 juillet 2014 aurait été abattu par l'armée ukrainienne avec l'accord des États-Unis. L'armée ukrainienne a détruit le MH17 délibérément avec la bénédiction de la CIA, soutient-il. Les différentes enquêtes internationales indépendantes concluent pourtant que le vol a été abattu par les séparatistes pro-russes. Tout le discours de l'ancien officier consiste donc à justifier grossièrement l'invasion de l'Ukraine par la Russie à grand renfort de désinformation. Ce discours séduit toute une partie de l'extrême droite française, admirative de la politique de Vladimir Poutine, et pourrait même plaire à certains candidats RN locaux au passé carrément pro-russe. Difficile en tout cas, en écoutant cette conférence sans être spécialiste du sujet, de ne pas se faire avoir par la désinformation du Kremlin. Car les arguments de l'intervenant s'enchaînent à vive allure et sans aucune pause. Heureusement, il est possible de s'informer grâce aux travaux des chercheurs et spécialistes qui bénéficient de la reconnaissance du milieu scientifique. Alexandra Goujon a elle-même écrit un ouvrage intitulé « Ukraine, de l'indépendance à la guerre ». Ce livre permet d'aller au-delà des idées reçues et de la propagande russe. La chercheuse conseille également un autre livre, celui d'Elena Voloshine, journaliste d'origine russe. Un livre qui s'intitule « Propagande, l'arme de guerre de Vladimir Poutine ». Cet ouvrage consacre tout un chapitre au mythe nazi qui consiste à faire croire que l'Ukraine serait nazie ou fasciste et qui permet de déshumaniser la population ukrainienne et donc de mener une politique criminelle en Ukraine.
Ça c'est très intéressant parce que, il y a plusieurs choses pour comprendre le phénomène. Premièrement, pour comprendre en fait ce phénomène dans la région, il faut être très au fait de ce qui s'est passé pendant la période soviétique après la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire, en Ukraine, comme dans d'autres pays, en Lituanie, en Pologne, ça a été le cas aussi en France, mais en Biélorussie, on a une collaboration d'accord, avec l'Allemagne nazie. Alors, côté ukrainien, cette collaboration, elle est liée à plusieurs choses. Un, parce que dans les années 30, il y a une famine... qui est organisé par Staline et qui fait près de 4 millions de morts en Ukraine, et donc un anticommunisme extrêmement développé. Et un certain nombre de nationalistes ukrainiens de l'ouest de l'Ukraine se disent que l'État allemand va peut-être leur donner une chance de construire un État. État qui avait déjà émergé en 1918, mais où les communistes avaient repris la main et donc l'Ukraine était devenue soviétique et non pas indépendante. Donc il y a cela. Et puis après, il y a dans le mouvement nationaliste, des années 30 ukrainien, à la fois un mouvement qui a pu être antisémite et surtout une chose qui est un petit peu moins connue, mais aussi anti-polonais. hein, puisque dans cette région de l'ouest de l'Ukraine, il y a aussi, d'ailleurs pendant la guerre, ça crée des différents mémoriels avec la Pologne, hein, qui est un allié de l'Ukraine. Il n'en reste pas moins qu'il y a un gros différent mémoriel, notamment sur des massacres en Volhynie et des massacres de Polonais par des Ukrainiens et ensuite de Polonais vis-à-vis des Ukrainiens, etc. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une longue domination polonaise dans ce territoire. Hein. Donc il y a un nationalisme... comme dans d'autres endroits d'Europe dans les années 30, un nationalisme d'extrême droite qui se développe. Donc en fait, il y a une partie des organisations nationalistes qui vont collaborer avant en fait d'être assez rapidement réprimées. Hein. On parle souvent de Stepan Bandera. En fait, Stepan Bandera, il passe la plus grande partie de la guerre emprisonné par les Allemands. Voilà, donc... Il n'en reste pas moins qu'il y a un mouvement nationaliste de collaboration. On considère que les organisations nationalistes pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est à peu près 200 000 personnes, alors que vous avez 5 millions d'Ukrainiens qui ont combattu du côté de l'armée rouge. Mais ce mouvement de collaboration, il est totalement stigmatisé par les soviétiques, y compris dans toute la période post-soviétique, enfin post-Seconde Guerre mondiale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, par exemple, les stéréotypes sont tels que si vous parlez ukrainien dans les années 70-80 dans certaines régions d'Ukraine, vous vous faites accuser de bandériste, de fasciste, de nazi. C'est-à-dire qu'il va y avoir pendant toute cette période une assimilation entre l'ukrainien, la culture ukrainienne et la collaboration. D'où aujourd'hui le fait que dans la propagande russe, on dit même plus ukrainien, on dit nazi. Au début, on disait les nazis ukrainiens. Maintenant, quand on dit nazi, c'est les ukrainiens. Cette image de l'ukrainien fasciste, nazi, etc., c'est quelque chose, en fait, qui existe pendant toute la période soviétique. Et bon, dans les années 90, bien évidemment, ça disparaît, on est complètement dans autre chose. Et puis, progressivement, après la Révolution orange, de 2004, ça réapparaît dans la rhétorique russe. Parce que la rhétorique russe, en Russie, va se développer, la Russie va reprendre toute la rhétorique soviétique autour de ce qu'ils appellent la Grande Guerre patriotique. Et pour réhabiliter notamment les dignitaires communistes ou des gens comme Staline, ils vont présenter Staline non pas comme celui qui a purgé l'URSS, organisé des déportations, c'est sous son règne qu'on voit le développement des goulags, etc. dans les années 30, c'est pas ça. L'idée, ça va être plutôt de présenter Staline comme le vainqueur de la Seconde Guerre mondiale. La lutte contre le nazisme étant l'essence même, si je puis dire, de la légitimité de l'Union soviétique et de sa puissance. Donc en fait, dans tout ce mouvement de réhabilitation de la Grande Guerre patriotique contre le nazisme, sachant que toute cette histoire, elle est présentée sous un jour particulier, puisque toute la période de coopération entre Hitler et Staline entre 1939 et 1941, hein, le pacte Molotov-Ribbentrop, toute cette partie-là est complètement exclue de l'histoire officielle, hein, côté russe. On n'explique pas comment Hitler et Staline se sont mis d'accord sur le partage de la Pologne, par exemple. Donc, voilà ces stéréotypes sur l'ukrainien. L'ukrainien est nécessairement fasciste. Ça, c'est vraiment la période de l'avant, pendant et après Seconde Guerre mondiale. Et puis, dans les années 90, quand l'Ukraine va devenir indépendante, etc., il va y avoir une expression politique et il y a une extrême droite qui se met en place. Hein. C'est-à-dire, ce nationalisme, il continue d'exister, mais j'allais dire, comme dans plein de pays européens. L'extrême droite, elle n'a jamais cessé d'exister. Et ce que je crois paradoxalement, en fait, c'est que l'invasion russe de 2014, elle a en fait totalement fait quasiment, pas disparaître, mais elle a totalement amoindri la présence politique de l'extrême droite. Je m'explique. Si, comme je vous ai dit, en 2014, on a un petit groupe de députés d'extrême droite, après 2014, en fait, les élections de 2014-2019 font disparaître politiquement l'extrême droite, c'est-à-dire que les candidats d'extrême droite À la présidentielle, ça fait moins de 2%. Et aux législatives, ça, c'est pareil. Ça, les mouvements d'extrême droite font moins de 5% et ne sont pas représentés au Parlement. Pourquoi ? Bah parce qu'en fait, les élites politiques ukrainiennes, c'est-à-dire Porochenko, qui est le président, et puis ensuite Zelensky, ils ont un discours extrêmement patriotique. Et bon, comme vous le savez, hein, Zelensky est loin d'être une personnalité d'extrême droite. Directeur d'une région de l'Est de l'Ukraine, socialisé dans la russophonie. Zelensky, il a appris l'ukrainien pendant sa campagne électorale en 2018-2019. Enfin bon, pas du tout. L'extrême droite ne domine absolument pas les institutions politiques. Par contre, ils sont visibles. Alors, ils sont visibles parce qu'ils organisent des marches, de temps en temps des manifestations. Voilà, qui leur donne une visibilité politique. Et puis, vous avez notamment, hein, à travers le groupe Azov, hein, une extrême droite qui a créé des bataillons en 2014. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas considérer ces bataillons comme des bataillons néo-nazis, parce qu'ils ont pris une telle ampleur qu'en fait, les bataillons eux-mêmes se sont... Enfin, comment dire, ce sont leur idéologie en fait ne domine absolument pas l'ensemble des personnes qui y adhèrent. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, le Azov a gagné en légitimité, non pas par rapport à son idéologie, mais par rapport à son, comment dire, à son action sur le terrain, hein, et notamment la défense de Mariupol en 2014, etc. Et en fait, aujourd'hui, s'il y a un certain nombre de personnes qui veulent rentrer la brigade qui autrefois était dominée par Azov, c'est en raison de ses faits d'armes et non pas en raison de son idéologie. Donc voilà, ça ne veut absolument pas dire qu'il n'y a pas de groupes néo-nazis en Ukraine, ça veut dire que ces groupes néo-nazis sont minoritaires en Ukraine, et ça veut dire aussi que si on essaye de voir un peu les manifestations de cette extrême droite xénophobe, ce qu'on constate, c'est qu'il n'y a pas de... Comment vous dire ? Voilà, si on parle d'actes antisémites en Ukraine, etc., c'est comparativement à d'autres pays européens, c'est absolument pas développé. Si on parle d'actes xénophobes en Ukraine, alors bon, vous allez me dire, c'est un peu plus compliqué en temps de guerre, hein, mais si on regarde ce qui s'est passé avant l'invasion à grande échelle, c'était absolument pas développé. Si vous discutez avec la communauté juive ukrainienne, dont une partie est restée en Ukraine. Hein, voilà, certains sont partis, bon, c'est un peu compliqué, hein, parce que certains, après l'invasion à grande échelle, sont partis en Israël, et puis bon, il y a eu le 7 octobre, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'extrême droite, mais elle n'est pas institutionnellement forte. On prend le gouvernement, le Parlement, absolument pas dominé par cette extrême droite. J'allais dire, elle est peut-être un petit peu plus présente, mais aujourd'hui, il y a 800 000 hommes qui sont mobilisés. L'extrême droite ne domine absolument pas. Par contre, il y a des effets de visibilité. Et puis, l'autre chose qu'on ne mentionne pas, c'est les tatouages nazis qu'on retrouve chez les prisonniers russes, chez les personnes qui sont faites prisonniers par l'armée ukrainienne, côté russe. Donc, si on parle aujourd'hui d'engagement de l'extrême droite dans la guerre, je pense qu'on ne peut pas... si on compare le niveau xénophobie, par exemple, en Russie et en Ukraine, je suis loin de penser que la xénophobie soit plus importante en Ukraine. La Russie n'a pas réussi à mettre la main sur l'État ukrainien. Le pouvoir est resté en place, chaîne de commandement militaire, qu'on a vu un très grand mouvement de résistance nationale, dont on parle peu, puisqu'on se focalise aujourd'hui sur ce qui se passe sur la ligne de front, et c'est normal, mais qui est encore bien présent. En gros, il y a du grignotage côté russe, hein, on le sait, mais la Russie aujourd'hui occupe un peu plus de 18% du territoire ukrainien. Au début de l'invasion, c'était 25%, invasion à grande échelle. Donc, on va dire qu'il y a un taux d'occupation qui stagne depuis le retrait et puis les contre-offensives depuis, environ 2 ans maintenant. Depuis 2 ans, il y a une stagnation sur la ligne de front. Mentionnons quand même le fait que l'armée ukrainienne a fait une incursion en Russie et qu'elle n'a pas été délogée jusqu'à présent. La Russie n'a pas mis la main sur l'État ukrainien, contrairement à ce qu'elle voulait au départ. Par contre, elle a affaibli l'État ukrainien. Et ça, elle le fait depuis 2014. L'objectif de la Russie, c'est sur le long terme, affaiblir au point que l'Ukraine, si vous voulez, même si elle ne tombe pas, allez dire, hein, elle n'est pas annexée par la Russie, soyons clairs, qu'elle devienne en fait un État difficilement viable, hein, d'un point de vue économique, social, c'est ça l'objectif hein, de la Russie, d'amoindrir au maximum l'État ukrainien. Et donc en fait, la question qui reste centrale aujourd'hui, c'est quelle souveraineté pour l'Ukraine, hein, c'est-à-dire que la Russie va chercher à limiter toutes les marges de manœuvre ukrainiennes. Et donc, son entrée dans l'Union européenne, son entrée dans l'OTAN, qui sont pour l'Ukraine les principaux garde-fous pour préserver son indépendance. Le jour où l'Ukraine sera dans l'Union européenne et dans l'OTAN, ils auront en quelque sorte davantage la certitude que leur indépendance va perdurer extrêmement longtemps. Ce sont des espèces de garanties. Hein. Et c'est pour cette raison que dans la discussion qui peut exister aujourd'hui sur... qui revient régulièrement, mais peut-être qu'on ne met pas assez l'accent là-dessus, dans les discussions sur plan de paix, négociation, tout ce que vous voulez, la question, en fait, c'est ce qui inquiète le pouvoir politique ukrainien aujourd'hui, c'est les garanties de sécurité. L'arrêt de la guerre, c'est une chose. Pour les Ukrainiens, l'arrêt de la guerre ne signifie pas la fin de l'agression russe. Elle peut la décaler, elle peut la... voilà. Et donc, l'objectif pour les Ukrainiens aujourd'hui, c'est d'avoir le maximum de garanties de sécurité, c'est-à-dire que si jamais elle est attaquée à nouveau, et avec des moyens peut-être encore plus importants, eh bien qu'elle a des alliés qui lui viendront en aide à la mesure de l'agression qu'elle pourra recevoir de la Russie. Ça, c'est le challenge. Le challenge, c'est le maintien de l'État ukrainien, mais avec quelle marge de manœuvre réelle politique. Et aujourd'hui, la Russie, on le voit hein, par ses bombardements, l'usage des bombes planantes, etc., cherche toujours à amoindrir le plus possible les capacités, j'allais dire, de l'État ukrainien. Il y a une chose peut-être que je rajouterais, que je dis assez régulièrement et qui me paraît important. Parce que là, dans ce que vous avez aussi posé comme question, se pose en fait la question centrale du soutien des alliés. Hein. La Russie ne cherche pas uniquement à mettre la main sur l'État ukrainien et à diminuer au maximum ses capacités d'action. Elle cherche parallèlement, en fait, à se greffer sur une lassitude hein, qui pourrait exister du côté des alliés, c'est-à-dire des alliés d'Ukraine. Hein, où on aimerait bien mettre fin à la guerre. Et donc, en fait, l'objectif de la Russie, et notamment dans les questions que vous m'avez posées, hein, sur le coup d'État, l'extrême droite, les russophones, tout cela, c'est fait pour faire porter la responsabilité du conflit, non pas à la Russie, mais à l'Ukraine elle-même. C'est-à-dire que la Russie, ce qu'elle va chercher à faire dans toute sa rhétorique... Alors, jusqu'à présent, vous allez me dire, ça n'a pas énormément fonctionné, puisque... Il y a quand même eu une aide, mais vous avez vu que l'aide, elle a été l'aide à l'Ukraine, elle est lente, on se pose encore plein de questions, ce qu'il faut faire, les lignes rouges, etc. Donc ça a quand même été assez prudent hein, pour faire attention à la Russie qui est par ailleurs une puissance nucléaire. Mais surtout, ce qu'il faut voir, c'est que ce que cherche à faire la Russie, alors je pense que là, elle y arrive moins qu'en 2014, hein, c'est sûr, c'est plus compliqué, mais c'est vraiment de dire, en fait, d'abord que les Occidentaux a délégitimé l'action occidentale en disant les Occidentaux sont en train d'aider des nazis, et donc sont eux-mêmes en train de devenir comme les Ukrainiens. Hein, c'est très présent hein, quand vous écoutez la propagande russe aujourd'hui. Et en ce sens-là, d'un point de vue international, c'est de montrer que la Russie est du bon côté de l'histoire. Et de totalement, vous voyez, délégitimer l'État ukrainien dans ce qu'il est, en disant qu'il serait foncièrement fasciste, etc. Et donc, au final, de dire... Mais, vous voyez, enfin, le problème, c'est l'Ukraine, c'est pas la Russie. Le problème, c'est l'Ukraine. Et donc ça, c'est là-dessus que toute la propagande pro-russe, hein, c'est là-dessus qu'elle s'appuie, en fait. Alors que c'est totalement oublié que la Russie est à la fois une puissance nucléaire, quand vous regardez les cartes D'où les Ukrainiens, comment dire, envisager d'attaquer la Russie. Vous voyez, ça va complètement à contre-courant, mais c'est ça que cherche à faire la Russie, à appuyer sur la responsabilité ukrainienne du conflit. Et à se déresponsabiliser elle-même.
Le collectif antifasciste d'Orléans a, de son côté, profité de cette conférence pro-russe pour envoyer sur X, ou l'ex-Twitter, une pique à Serge Grouard. Il lui a demandé s'il accepterait de louer de nouveau la médiathèque à France Souveraineté. Le maire d'Orléans avait en effet renommé le pont de l'Europe en pont de l'Ukraine et avait fait pavoiser la rue Jeanne d'Arc de grands drapeaux ukrainiens, multipliant les déclarations de solidarité et les aides aux réfugiés ukrainiens. La position de Serge Grouard semble, sur ce point, s'éloigner des habituelles obsessions de l'extrême droite parlementaire. Malgré la tenue d'une conférence avec un intervenant ouvertement antisémite, la mairie d'Orléans continuait cependant, en 2023, à accueillir l'association au Forum des associations d'Orléans, au nom, je cite, « de la liberté d'expression ». Reste à savoir si cette dernière conférence pro-russe pourrait contribuer à éloigner France Souveraineté des équipements municipaux.
Engagement politique, participation citoyenne, journalisme social, liberté d'expression, décryptage d'articles, réflexion sur l'actualité. Rejoins la Rédac Pop, le média participatif de Radio Campus Orléans. La Rédac Pop.
Laid down under China's constitution. Le marchandage, le chantage, le vol, la violence, le crime, mais je ne veux pas le savoir.
Est-ce que t'as ton oreille tendue? C'est le 88.3 FM.
C'est ça la classe, mon petit.
Lumière. Thank you.